Gostaka, Mete proposé de vous dire cette année sur l'angoisse. J'en marquerai la limite et la fonction, indiquant par là où j'entends que se continue les positions qui seules nous permettront s'il se peut de boucler ce qu'il en est de notre rôle d'analyste. L'angoisse, Freud, au terme de son œuvre, l'a désigné comme signal. Il l'a désigné comme signal. Distinct de l'effet de la situation traumatique. Signal articulé à ce qu'il appelle danger. Le mot danger pour lui est lié à la fonction, à la notion. Il faut bien le dire, non élucidé, de danger vital. Ce que j'aurai pour vous cette année articulé d'original, c'est la précision. Sur ce qu'est ce danger. Ce danger, c'est, conformément à l'indication freudienne, mais plus précisément articulé, ce qui est lié au caractère de cession, C-E-2-S-I-O-N, du moment constitutif de l'objet petit a. De quoi, dès lors, l'angoisse pour nous, en ce point de notre élaboration, doit-elle être considérée comme le signal? Ici encore, nous articulerons autrement que Freud ce moment de fonction de l'angoisse est antérieur à cette cession de l'objet. Car l'expérience nous interdit de ne pas, comme la nécessité même de son articulation y oblige Freud, situer quelque chose de plus primitif que l'articulation de la situation de danger dès lors que nous la définissons comme nous venons de le faire, à un niveau, à un moment antérieur à cette cession de l'objet. L'angoisse, ai-je annoncé pour vous d'abord, et dès le séminaire d'il y a 2 ans, l'angoisse se manifeste sensiblement dès le premier abord comme se rapporte et d'une façon complexe au désir de l'autre. Dès ce premier rapport, j'ai indiqué que la fonction angoissante du désir de l'autre était liée à ceci, que je ne sais pas quel objet petit a, je suis pour ce désir. J'accentuerai aujourd'hui que ceci ne s'articule pleinement, ne prend forme exemplaire qu'à ce que j'ai appelé, désigné ici en signe au tableau, le quatrième niveau définissable comme caractéristique de la fonction de la constitution du sujet dans sa relation à l'autre, et pour autant que nous pouvons l'articuler comme centré autour de la fonction de l'angoisse. Là seulement, la plénitude spécifique, par quoi le désir humain est fonction du désir de l'autre, là seulement à ce niveau, cette forme est remplie. L'angoisse, vous ai-je dit, il y est lié à ceci, que je ne sais pas quel objet petit a je suis pour le désir de l'autre. Mais ceci, en fin de compte, n'est lié qu'au niveau où je puis en donner cette fable exemplaire, où l'autre serait un radicalement autre. Il serait cette mante religieuse d'un désir vorace, à quoi rien ne me lie de facteur commun. Bien au contraire, à l'autre humain, quelque chose me lie, qui est ma qualité d'être son semblable, ce qui reste du je ne sais pas angoissant, est foncièrement méconnaissance à ce niveau toute spéciale de ce qu'est dans l'économie de mon désir d'homme, le petit A. C'est pourquoi, paradoxalement, c'est au niveau dit quatrième, au niveau du désir scopique, que si la structure du désir est pour nous la plus pleinement développée, dans son aliénation fondamentale, c'est là aussi que l'objet petit a est le plus masqué et avec lui le sujet est, quant à l'angoisse, le plus sécurisé. C'est ce qui rend nécessaire que nous cherchions ailleurs qu'à ce niveau la trace du petit a quant au moment de sa constitution. L'autre, en effet, si par essence il est toujours là dans sa pleine réalité, et donc toujours que cette réalité, pour autant qu'elle prend présence subjective, peut se manifester par quelqu'une de ses arêtes, il est clair que le développement ne donne pas un accès égal à cette réalité de l'autre. Au premier niveau, cette réalité de l'autre est présentifiée, comme il est bien net, dans la puissance originelle du nourrisson enfantin, par le besoin. Ce n'est qu'au second temps qu'avec la demande de l'autre, quelque chose, à proprement parler, se détache et nous permet d'articuler d'une façon complète la constitution du petit a par rapport à sa fonction de lieu de la chaîne signifiante, fonction, j'entends, de l'autre avec un grand A. Mais je ne veux pas quitter aujourd'hui ce premier niveau sans bien pointer que l'angoisse avant toute articulation comme telle de la demande de l'autre, et singulièrement, je vous prie un instant de vous arrêter au paradoxe qui l'a conjoint. Le point de départ de ce premier effet de cession qui est celui de l'angoisse avec ce qui sera au terme quelque chose comme son point d'arrivée. manifestation de l'angoisse coïncidant avec l'émergence même au monde de celui qui sera le sujet, c'est le cri. Le cri dont j'ai situé dès longtemps la fonction comme rapport non pas originel, mais terminal. Parce que nous devons considérer comme étant le cœur même de cet autre en tant qu'il s'achève pour nous à un moment comme notre prochain. Ce cri qui échappe au nourrisson, il ne peut rien en faire s'il a là cédé quelque chose, rien ne l'y conjoint. Mais cette angoisse originelle, est-ce que je suis le premier, est-ce que tous les auteurs n'ont pas accentué son caractère dans un certain rapport dramatique de l'émergence de l'organisme humain en l'occasion, un certain monde où il va vivre. Pouvons-nous, dans ces indications multiples et confuses, ne pas en voir certains traits contradictoires? Pouvons-nous retenir comme valable l'indication ferenkienne que pour l'ontogénèse elle-même, il y a émergence de je ne sais quel milieu aqueux primitif qui serait l'homologue du milieu marin? Quel rapport du liquide amniotique avec cette eau où peut s'opérer cet échange de l'intérieur à l'extérieur qui s'opère, de l'animal vivant en un tel milieu au niveau de la branchie? Parce que jamais, à aucun moment chez l'embryon, la branchie humaine fonctionne. Je vous prierai plutôt de retenir, car tout ce qui nous est indiqué dans cette spéculation souvent confuse, que la spéculation psychanalytique doit être considérée par nous comme n'étant pas pour du sens, sur la voie de quelque chose d'indicatif qu'elle saute, se traîne et quelquefois illumine. Puisque de phylogénèse ont fait état en l'occasion, je vous prie, du point de vue d'un échange schématisé, dans la forme d'un organisme avec sa limite et sur cette limite un certain nombre de points choisis d'échange, vous apercevoir combien en effet c'est une chose incroyable si tant est que le schéma vital de l'échange le plus basal effectivement fait de la fonction de cette paroi, de cette limite, de cette osmose entre un milieu extérieur et un milieu intérieur dans lequel, entre lesquels il doit y avoir un facteur commun, de considérer l'étrangeté de ce saut par quoi les êtres vivants sont sortis de leur milieu primitif, sont passés à cet air avec un organe dont... Vous pouvez consulter là-dessus les livres d'embryologie. On ne peut qu'être frappé par le caractère, dans le développement, de néo-formation, si l'on peut dire, arbitraire. Il y a autant d'étrangers... cette intrusion à l'intérieur de l'organisme, de cet appareil dont toute l'adaptation du système nerveux a longuement s'accommodé avant que ça fonctionne vraiment comme une bonne pompe, il y a autant d'étrangeté dans le saut que constitue l'apparition de cet organe. On peut dire qu'il y en a en fait qu'à un moment de l'histoire humaine, on a vu des êtres humains respirer dans un poumon d'acier, ou encore s'en aller dans ce qu'on appelle proprement le cosmos, avec autour de soi quelque chose qui, pour sa fonction vitale, n'est pas essentiellement différent de ce que j'évoque ici. Comme réserve d'air. Que l'angoisse ait été en quelque sorte, c'est Freud qui nous l'indique ici, choisi comme signal de quelque chose, est-ce que nous ne devons pas en reconnaître le trait essentiel dans cette intrusion radicale de quelque chose de si autre à l'être vivant qu'est déjà de passer dans l'atmosphère. Et c'est là le trait essentiel par quoi l'être vivant humain qui émerge à ce monde où il doit respirer et d'abord littéralement étouffé, suffoqué, par ce qu'on a appelé le trauma, il n'y en a pas d'autre, le trauma de la naissance qui n'est pas séparation de la mère, mais aspiration en soi de ce milieu foncièrement autre. Bien sûr, le lien n'est pas clair de ce moment avec ce qu'on peut appeler séparation et sevrage. Mais je vous interroge, je vous prie de rassembler les éléments de votre expérience. Expérience d'analyste, d'observateur, de l'enfant. Expérience aussi de tout ce qui doit être reconstruit, de tout ce qui s'avère pour nous comme nécessaire si nous voulons donner un sens au terme de sevrage pour voir que le rapport du sevrage à ce premier moment n'est pas un rapport un rapport de phénomènes qui se recouvrent, mais bien plutôt quelques rapports de contemporanéité. Ce n'est pas essentiellement vrai que l'enfant soit sevré. Il se sèvre. Se détache du teint, il joue. Après cette première expérience dont le caractère déjà subjectivé se manifeste si sensiblement, par le passage face. Seulement tes beaux chants, les premiers signes de la mimique, de la surprise. Il joue à se détacher et à reprendre ce sein, et s'il n'y avait déjà quelque chose d'assez actif pour que nous puissions l'articuler dans le sens d'un désir de sevrage. Comment même aurions-nous concevoir les faits très primitifs, très primordiaux dans leur apparition, dans leur datation de refus du sein, les formes premières de l'anorexie auquel notre expérience nous apprend à chercher tout de suite les corrélations au niveau du grand homme. Il manque à cet objet promis que nous appelons le sein. Pour fonctionner authentiquement pour ce qu'il est donné pour être dans la théorie classique, à savoir la rupture du lien à l'autre, il lui manque son plein lien à l'autre, et c'est pourquoi j'ai fortement accentué que son lien est plus proche au premier petit sujet néonatal. Il n'est pas de l'autre. Il n'est pas le lien qu'il y a à rompre de l'autre. Il est tout au plus le premier signe de ce lien. C'est pourquoi il a rapport avec l'angoisse, mais aussi, dès là-bas, pourquoi il est en somme la première forme et la forme qui rend possible la fonction de l'objet transitionnel. Aussi bien, n'est-il pas à ce niveau le seul objet qui s'offre à remplir cette fonction? Et si plus tard, un autre objet, celui sur lequel la dernière fois, une autre encore, j'ai longuement insisté, l'objet anal vient à remplir façon plus claire cette fonction au moment où l'autre lui-même élabore la sienne sous la forme de la demande, on peut voir la sagesse de toujours, et c'est veilleuse de la venue au monde de l'animal humain, les sages-femmes se sont toujours arrêtées. Pour tomber en arrêt devant ce singulier aussi petit objet qu'est dès l'apparition de l'enfant le méconium. Je ne reviendrai pas aujourd'hui pour l'avoir déjà fait sur l'articulation beaucoup plus caractéristique que cet objet anal nous permet de faire de la fonction de l'objet petit a. De l'objet petit a. Attends. Il se trouve à être le premier support dans le rapport à l'autre de la subjectivation. Je veux dire ce en quoi, ce par quoi le sujet est requis d'abord par l'autre de se manifester comme sujet, et sujet de plein droit, comme sujet qui déjà s'y a donné ce qu'il est, en tant que ce passa, c'est entrer dans le monde de ce qu'il est, ne peut être que comme reste. Comme irréductible. Par rapport à ce qui lui est imposé de l'empreinte symbolique. Ce qu'il est là, c'est ce qu'il a d'abord à donner. Et c'est à cet objet qu'est appendu, comme à l'objet causal, ce qui va l'identifier primordialement au désir de retenir. La première forme évolutive du désir s'apparente ainsi et comme tel à l'ordre de l'inhibition. Quand le désir, pour la première fois formé, apparaît, il s'oppose à l'acte même par où son originalité de désir s'introduit. Déjà, s'il était clair au stade précédent, c'est bien à l'objet qu'est appendu la première forme de désir. En tant que nous l'élaborons comme désir de séparation. La seconde forme, qui est claire, la fonction de cause que je donne à l'objet se manifeste en ceci, que la forme du désir se retourne contre la fonction qui introduit l'objet petit a comme tel. Car bien sûr, il faut voir que cet objet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il est là, déjà donné, déjà produit, et produit primitivement, mis à la disposition de cette fonction déterminé par l'introduction de la demande par quelque chose qui est antérieur, s'il était là déjà, comme produit de l'angoisse. Ce n'est donc pas ici, ni l'objet en soi, ni le sujet, qui s'autonomiserait comme on l'imagine, dans une vague et confuse priorité de totalité qui est ici intéressée. Mais dès l'abord, initialement un objet choisi pour sa qualité d'être spécialement cessible, d'être originellement un objet lâche. Vous voyez, ce qui est ici en question, c'est de s'apercevoir que dans ce point d'insertion primitive du désir, lié à la conjonction en une même parenthèse du petit A et du grand D de la demande, il y a ceci d'un côté et de l'autre côté l'angoisse. Et que c'est dans l'interchangement de ces positions de l'angoisse et de ce qui a pour le sujet à se constituer dans sa fonction qui restera jusqu'à son terme essentiel d'être représenté par petit a, c'est là que se trouve le niveau où nous pouvons, où nous devons nous maintenir, nous soutenir, si nous voulons vraiment considérer ce qu'il en est de notre fonction technique. Cette angoisse, ici, la voici donc, nous le savons depuis longtemps, comme écartée, dissimulée dans ce rapport que nous appelons ambivalent de l'obsessionnel. Ce rapport que nous simplifions, que nous abrégeons, que nous éludons lui-même quand nous le limitons à être celui de l'agressivité. Cet objet qu'il ne peut s'empêcher de retenir comme le bien qui le fait valoir, mais qui n'est aussi de lui que le déjet, la déjection. Voilà les deux faces par où il détermine le sujet même comme compulsion et comme doute. C'est de cette oscillation même entre ces deux points extrêmes que dépend le passage momentané possible du sujet par ce point zéro, c'est en fin de compte entièrement à la merci de l'autre, ici au sens duel, du petit autre que se trouve le sujet. C'est pourquoi, dès ma deuxième leçon, je vous ai signalé en opposant la structure du rapport du désir au désir de l'autre au sens où je vous l'enseigne avec la structure où il s'articule, se définit, s'algébrise dans la dialectique hegelienne. Je vous ai dit que le point où il se recouvre, point partiel, celui-là même qui nous permet de définir ce rapport comme rapport d'agressivité, et celui qui définissait la formule au point où nous égalons à zéro. Le moment que l'entend au sens physique de ce désir, c'est-à-dire de ce que j'ai écrit ici, T de petit a, autrement dit, désir en tant que déterminé par le premier objet caractéristiquement cessible, ici, effectivement, on peut dire que le sujet se trouve affronté avec ce qu'on traduit dans la phénoménologie hegelienne par l'impossibilité de la coexistence des consciences de soi, et qui n'est que l'impossibilité pour le sujet, au niveau du désir, de trouver en lui-même, sujet, sa cause. Ici, vous devez voir déjà s'amorcer la cohérence de cette fonction de cause avec ce fantasme caractéristique d'une pensée en quelque sorte forcée pour la spéculation humaine, de cette notion de causa sui, cette pensée se conforte de l'existence quelque part d'un être à qui sa cause ne serait pas étrangère. Compensation, fantasme, surmontement arbitraire, de ceci, de notre condition, que la cause de son désir, l'être humain est d'abord soumis à l'avoir produite dans un danger qu'il ignore. À cela est lié ce ton suprême et magistral dont retentit et ne cesse de retentir au cœur de l'écriture sacrée, dont malgré son aspect blasphématoire, le texte dit de l'Ecclésiaste a dû rester. Et qu'est-ce qui en fait le ton, l'accent, sinon ceci? Hebel, Hebel, tout est vanité. Vanité, ce que nous traduisons ainsi, et dans l'hébreu, dont je vous écris les trois lettres radicales, et qui veut dire vent, haleine encore, si vous voulez, buée, chose qui s'efface, qui nous ramène à une ambiguïté, je crois, plus légitime ici à évoquer, concernant que peut avoir de plus abject ce souffle que tout ce que Jones a cru devoir élaborer à propos de la conception de la Madone par l'oreille. Ce thème, cette thématique de la vanité, c'est bien elle qui donne son accent, sa portée, sa résonance, toujours présente à la définition hegelienne de ceci, que la lutte originelle et féconde d'où part la phénoménologie de l'esprit, part, nous dit-il, de la lutte à mort, de pur prestige, dit-il, ce qui a bien accent de vouloir dire la lutte pour rien. Faire tourner la cure de l'obsession autour de l'agressivité, c'est de façon patente, et si je puis dire avouée, même si elle n'est pas délibérée, introduire à son principe la subduction du désir du sujet au désir de l'analyste en tant que, comme tout désir qui s'articule ailleurs que dans sa référence interne au petit a, ce désir s'identifie à un idéal auquel d'une façon obligée sera courbé le désir du patient, pour autant que cet idéal est la position que l'analyste a obtenue ou cru obtenir à l'endroit de la réalité. Or, A petit a dont il s'agit, ainsi marqué comme cause du désir, n'est pas cette vanité ni ce déchet. S'il est bien dans sa fonction ce que j'articule, à savoir cet objet défini comme un reste, comme ce qui est irréductible à la symbolisation au lieu de l'autre, qui en dépend certes, car autrement, comment se constituerait ce reste, si petit a est l'unique de l'existence en tant qu'elle se fait valoir. Non pas, comme on l'a dit, dans sa facticité. Car cette facticité ne se situe que de sa référence à une prétendue et mythique nécessité noétique, qui serait posée elle-même comme la référence première. Il n'y a nulle facticité dans ce reste où s'enracine le désir qui, plus ou moins, arrivera à culminer dans l'existence. Sévérité, plus ou moins poussée de sa réduction, à savoir de ce qu'il fait irréductible, et où chacun peut reconnaître le niveau exact où il s'est haussé, au lieu de l'autre, voilà. Qui se définit dans ce dialogue qui se joue sur une scène. Tout. Principe de ce désir, après y être monté, à en retomber à travers l'épreuve de ce qu'il y aura laissé dans un rapport de tragédie ou de comédie plus souvent. Il s'y joue, bien sûr, en tant que rôle. Mais ce n'est pas le rôle qui compte. Et cela, nous le savons tous, d'expérience et de certitude intérieure, c'est ce qui, au-delà de ce rôle, reste. Reste précaire et livré sans doute, car je suis à jamais l'objet cessible, et comme chacun sait de nos jours, l'objet d'échange. Mais cet objet est le principe qui me fait désirer, qui me fait désirant d'un manque. Qui n'est pas un manque du sujet. Mais un défaut fait à la jouissance qui se situe au niveau de l'autre. Et c'est en cela que toute fonction du petit A ne se réfère à cette béance centrale qui sépare au niveau sexuel le désir du lieu de la jouissance qui nous condamne à cette nécessité qui veut que la jouissance ne soit pas de nature pour nous promise au désir. Que le désir ne peut faire que d'aller à sa rencontre. Que pour la rencontrer, le désir ne doit pas seulement comprendre, mais franchir le fantasme même qui le soutient et le construit. Ceci, que nous avons découvert comme cette butée qui s'appelle, en quoi cette castration, disons-nous, mais pourquoi pas désir de castration, puisqu'au manque central qui disjoint le désir de la jouissance, là aussi, un désir est suspendu dont la menace pour chacun n'est fait que de sa reconnaissance dans le désir de l'autre. À la limite, l'autre, quel qu'il soit, dans le fantasme, paraît être le châtre, l'agent de la castration. Assurément, ici, les positions sont différentes. Mais l'on peut dire que pour la femme, la position est plus confortable. L'affaire est déjà faite, et c'est bien ce qui fait son lien bien plus spécial au désir de l'autre. C'est bien aussi pourquoi Kierkegaard se dit cette chose singulière et juste profondément, je crois que la femme est plus angoissée que l'homme. Comment cela serait-il possible si justement à ce niveau central l'angoisse n'était pas faite précisément et comme telle de la relation au désir de l'autre? Désir, en tant qu'il est désir de désir, c'est-à-dire tentation, c'est là qu'en son cœur, il nous ramène à cette angoisse dans sa fonction la plus originelle. L'angoisse au niveau de la castration représente l'autre, si la rencontre du fléchissement de l'appareil nous donne ici l'objet sous la forme d'une carence. Ai-je besoin de rappeler ce qui, dans la tradition analytique, ici confirme ce que je suis en train d'articuler? Qui est celui qui nous donne d'abord l'exemple de la castration à tirer, assumer, désirer comme tel, sinon Édipe? Édipe n'est pas d'abord le père. C'est ce que j'ai voulu dire depuis longtemps en faisant remarquer ironiquement qu'Édipe n'aurait su avoir un complexe d'Édipe. Édipe est celui qui veut passer authentiquement et mythiquement aussi au quatrième niveau qu'il me faut bien aborder par sa voix exemplaire. Celui qui veut violer l'interdit concernant la conjonction du petit a, ici moins phi, et de l'angoisse. Celui qui veut voir ce qu'il y a au-delà de la satisfaction réussie, elle, de son désir. Péché d'Édipe et la cupido siendi, il veut savoir. Et ceci se paie par l'horreur que j'ai décrite, que ce qu'il voit enfin, ce sont ses propres yeux, petit a, jetés au sol. Est-ce à dire que ce soit là la structure du quatrième niveau et que quelque part il y ait toujours présent ce rite sanglant d'aveuglement? Non, il n'est pas nécessaire. Et c'est bien là par quoi le drame humain n'est pas tragique, mais comédie. ils ont des yeux pour ne point voir. Il n'est pas nécessaire qu'ils se les arrachent. L'angoisse est suffisamment repoussée, méconnue dans la seule capture de l'image spéculaire, i de petit a. Le mieux qu'on pourrait souhaiter est qu'il se reflète dans les yeux de l'autre. Mais ce n'est même pas besoin, puisqu'il y a le miroir. Et ici, l'articulation, selon le tableau de référence que je vous ai décrit la dernière fois, inhibition, symptôme, angoisse du quatrième niveau, voici à peu près comment je la décrirais. Au niveau de l'inhibition, c'est ce désir de ne pas voir. Qui a, vu la disposition des phénomènes, à peine besoin d'être soutenu, tout y satisfait. La méconnaissance comme structurale au niveau du ne pas savoir est là, à la deuxième ligne, et à la troisième, comme et moi, l'idéal. L'idéal du moi, c'est-à-dire ce qui, de l'autre, est, comme on dit, le plus commode à introjecter. Bien sûr, ce n'est point sans raison que ce terme d'introjection est ici introduit. Néanmoins, je vous prie de ne le prendre qu'avec réserve. Car à la vérité, l'ambiguïté qui reste de cette introjection à la projection suffisamment nous indique qu'il s'il faut, pour donner son plein sens au terme d'introjection, l'introduction d'un autre niveau. Ce qu'au cœur du symptôme central, de ce niveau, tel qu'il s'incarne spécialement au niveau de l'obsessionnel, j'ai déjà désigné. C'est le fantasme de la toute-puissance. Corrélatif de l'impuissance fondamentale à soutenir ce désir de ne pas voir. Ici, ce que nous mettrons au niveau de l'acting out, c'est la fonction du deuil, pour autant que je vais à l'instant vous prier d'y reconnaître ce qu'au cours d'une année passée, je vous aviez appris à y voir d'une structure fondamentale de la constitution du désir. Ici, au niveau du passage à l'acte, un fantasme suicide, dont le caractère et l'authenticité sont à mettre en question essentiellement à l'intérieur de cette dialectique. Ici, l'angoisse toujours, en tant qu'elle est masquée. Ici, au niveau de l'embarras, ce que nous appellerons légitimement, car je ne sais pas si l'on se rend bien compte de l'audace qu'apporte Kierkegaard en parlant de concept d'angoisse, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, sinon l'affirmation que où il y a la fonction du concept selon Hegel, c'est-à-dire quelque part, symboliquement, une prise véritable sur le réel, ou la seule prise que nous ayons. Et c'est ici qu'il faut choisir. C'est celle que nous donne l'angoisse, seule appréhension dernière et comme telle de toute réalité. Le concept de l'angoisse comme telle ne surgit donc qu'à la limite et d'une méditation dont rien ne nous indique qu'elle ne rencontre pas très tôt sa butée. Mais ce qui nous importe, c'est de retrouver ici la confirmation des vérités que nous avons déjà, par d'autres biais, abordées. Qu'est-ce que Freud articule au terme de sa spéculation sur l'angoisse, si ce n'est ceci ? Après, dit-il, tout ce que je viens de vous dire, d'avancer sur les rapports de l'angoisse avec la perte de l'objet, qu'est-ce qui peut bien le distinguer du deuil ? Et tout ce codicile, cet appendice à son article, vous pourrez vous y reporter, ne marque que le plus extrême embarras à définir la façon dont on peut comprendre que ces deux fonctions auxquelles il donne la même référence aient des manifestations si diverses. Je vous prie ici de vous arrêter avec moi un instant, parce que je crois devoir vous rappeler de ce à quoi nous a mené notre interrogation ici, quand il s'est agi de parler d'Hamlet comme personnage dramatique éminent, comme émergence à l'orée de l'éthique moderne du rapport du sujet à son désir. Ce que j'ai pointé, qu'à la fois, c'est l'absence du deuil et seulement, et à proprement parler du deuil chez sa mère, qui chez lui a fait s'évanouir, se dissiper, s'effondrer, jusqu'au plus radical élan possible d'un désir. C'est cet être qui nous est présenté par ailleurs, assez bien, je crois, pour que tel ou tel l'ait reconnu, voire identifié au style même des héros de la Renaissance, Salvador de Madariaga, par exemple, je me souviens de le rappeler. C'est un personnage dont le moins qu'on puisse dire qu'il ne recule pas devant grand-chose et qu'il n'a pas froid aux yeux. La seule chose qu'il ne puisse pas faire, c'est justement l'acte qu'il est fait pour faire. Parce que le désir manque. Et le désir manque en ceci que c'est effondré l'idéal. Quoi de plus douteux dans les paroles d'Hamlet que cette sorte de rapport idolâtrique qu'il dessine de la révérence de son père à cet être devant lequel nous sommes étonnés que ce roi suprême, le vieil Hamlet, l'Hamlet mort, se coupe littéralement pour lui faire hommage. Tapis, de son allégeance amoureuse. Est-ce que nous n'avons pas là les signes même de quelque chose de trop forcé, de trop exalté pour n'être pas de l'ordre d'un amour mythique. D'un amour mythique, d'un amour apparenté à ce style de ce que j'ai appelé l'amour courtois, qui en dehors de ses références proprement culturelles et rituelles, par où il est évident qu'il s'adresse à autre chose qu'à la dame, est le signe au contraire de je ne sais quelle carence, de je ne sais quel alibi. Devant les difficiles chemins que représente l'accès à un véridique amour. La correspondance de l'évasion animale de la Gertrude maternelle de toute cette dialectique avec cette survalorisation qui nous est présentée dans les souvenirs d'Hamlet de l'attitude de son père, est là battant. Et le résultat, c'est que quand cet idéal est contredit, quand il s'effondre, constatons-le, ce qui disparaît, c'est chez Hamlet le pouvoir du désir qui ne sera, comme je vous l'ai montré, restauré qu'à partir de la vision, au-dehors d'un deuil, d'un vrai, avec lequel il entre en concurrence, celui de Laërte par rapport à sa sœur, à l'objet aimé par Hamlet, et dont il s'est trouvé soudain par la carence du désir séparé. Est-ce que ceci ne nous ouvre pas la porte, ne nous donne pas la clé qui nous permet de mieux articuler que de Freud et dans la ligne de son interrogation même ce que ça signifie un deuil? Freud nous fait remarquer que le sujet du deuil a affaire à une tâche qui serait en quelque sorte de consommer une seconde fois la perte provoquée par l'accident du destin de l'objet aimé. Qu'est-ce à dire? Est-ce que le travail du deuil ne nous apparaît pas dans un éclairage à la fois identique et contraire comme le travail qui est fait pour maintenir, pour soutenir tous ces liens de détail, et Dieu sait combien Freud insiste à juste titre, sur le côté minutieux, détaillé de la rémémoration du deuil concernant tout ce qui a été vécu du lien avec l'objet aimé. C'est ce lien qu'il s'agit de restaurer avec l'objet fondamental, l'objet masqué, l'objet petit a. Véritable objet de la relation auquel, dans la suite, un substitut pourra être donné, il n'aura pas, en fin de compte, plus de portée que celui qui d'abord en a occupé la place. Comme le disait un d'entre nous, humoriste, au cours de nos journées provinciales, de l'histoire est bien faite pour nous montrer au cinéma que n'importe quel Allemand irremplaçable, il fait allusion à l'aventure qui nous est décrite dans le film Hiroshima, mon amour, de trouver un substitut immédiat est parfaitement valable. Cet Allemand irremplaçable dans le premier japonais rencontré au coin de la rue. Le problème du deuil est celui du maintien au niveau de quoi ? Des liens par où le désir est suspendu non pas à l'objet petit a, au niveau quatrième, mais à i de petit a, par quoi tout amour, en tant que ce terme implique la dimension idéalisée que j'ai dite, est narcissiquement structurée. Et c'est ce qui fait la différence avec ce qui se passe dans la mélancolie et dans la manie. Si nous ne distinguons pas l'objet petit a du i de petit a, nous ne pouvons pas concevoir ce que Freud, dans la même note, rappelle et articule puissamment, ainsi que dans l'article bien connu sur deuil et mélancolie, sur la différence radicale qu'il y a entre mélancolie et deuil. Ai-je besoin de me référer à mes notes et de vous rappeler ce passage où, après s'être engagé dans la notion du retour, de la réduction de la libido prétendument objectale sur le moi propre du sujet, il avoue, dans la mélancolie, ce processus, il est évident, c'est lui qui le dit, n'aboutit pas. L'objet surmonte sa direction. C'est l'objet qui triomphe. Et parce que c'est autre chose que ce dont il s'agit comme retour de la libido dans le deuil, c'est aussi pour cela que tout le processus, que toute la dialectique s'édifie autrement, à savoir que cet objet petit a, Freud nous dit qu'il faut alors, et pourquoi dans ce cas je le laisse ici de côté, qu'il faut alors que le sujet s'explique, mais que comme cet objet petit a est d'habitude masqué derrière le i de petit a du narcissisme, que le i de petit a du narcissisme est là pour qu'au quatrième niveau, le petit a soit masqué, méconnu dans son essence, c'est là qu'il nécessite pour le mélancolique de passer, si je puis dire, au travers de sa propre image et l'attaquant d'abord de pouvoir atteindre dans cet objet petit a qui le transcende, ce dont la commande lui échappe, ce dont la chute l'entraînera dans la précipitation suicide, avec cet automatisme, ce mécanisme, ce caractère nécessaire et foncièrement aliéné avec lequel, vous savez que ce sont les suicides de mélancoliques, et pas dans n'importe quel cadre. Et si ça se passe si souvent à la fenêtre, sinon à travers la fenêtre, ceci n'est pas un hasard. C'est le recours à une structure qui n'est autre que celle que j'accentue comme étant celle du fantasme. Ce rapport à petit a, par où se distingue tout ce qui est du cycle manie mélancolie, de tout ce qui est du cycle idéal, de la référence deuil ou désir, nous ne pouvons le saisir que dans l'accentuation de la différence de fonction du petit a par rapport au i de petit a, par rapport à quelque chose qui fait cette référence au petit a foncière, radicale, plus enracinante pour le sujet que n'importe quelle autre relation, mais aussi comme foncièrement méconnue, aliénée dans le rapport narcissique. Disons tout de suite en passant que dans la manie, c'est la non-fonction de petit a et non plus simplement sa méconnaissance qui est en cause. C'est le quelque chose par quoi le sujet n'est pas lesté par aucun petit a qui le livre, en quelque sorte sans aucune possibilité de liberté, à la métonymie infinie et ludique et pure de la chaîne signifiante. Ceci, sans doute, ai-je ici éludé bien des choses, ceci va nous permettre de conclure au niveau où cette année j'ai l'intention de vous laisser. Si le désir, comme tel, est dans son caractère le plus aliéné, le plus foncièrement fantasmatique, et ce qui caractérise le quatrième niveau, vous pouvez remarquer que si j'ai amorcé la structure du cinquième, que si j'ai assez indiqué qu'à ce niveau, le petit a se retarde. Cette fois, ouvertement aliéné. Comme support du désir de l'autre, qui cette fois se nomme, c'est aussi pour vous dire pourquoi je m'arrêterai cette année à ce terme. Toute la dialectique, en effet, de ce qui se passe au niveau de ce cinquième niveau implique une articulation plus détaillée qu'elle n'a jamais été faite avec ce que j'ai désigné tout à l'heure comme introjection, laquelle implique comme telle, je me suis contenté de l'indiquer, la dimension auditive, et laquelle implique aussi la fonction paternelle. Si l'année prochaine, les choses se passent de façon que je puisse poursuivre selon la voie prévue mon séminaire, c'est autour non pas seulement du nom, mais des noms du Père que je vous donnerai rendez-vous. Ce n'est pas pour rien que dans le mythe freudien, le Père intervient de la façon la plus évidemment mythique comme étant celui dont le désir submerge, écrase, s'impose à tous les autres. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction évidente avec ce fait évidemment donné par l'expérience, que par sa voix, c'est justement toute autre chose qui s'opère, à savoir la normalisation du désir dans les voies de la loi. Mais est-ce là tout? La nécessité même, à côté de ce qui nous est ici tracé, représenté, rendu sensible par l'expérience et jusque par les peines, maintes fois pensées par nous de la carence de la fonction du Père, est-ce que la nécessité du maintien du mythe n'attire pas notre attention sur autre chose, sur la nécessité de l'articulation, de l'appui, du maintien d'une fonction qui est celle-ci, qui est que le Père, dans la manifestation de son désir, c'est lui à quel petit a ce désir se réfère. Le Père n'est pas cause à suisse selon le mythe religieux, mais sujet qui a été assez loin dans la réalisation de son désir pour le réintégrer à sa cause, quelle qu'elle soit, à ce qu'il y a d'irréductible dans cette fonction du petit a, en tant que je vous prie de saisir ce qui nous permet d'articuler au principe de notre recherche même, sans l'éluder d'aucune façon, qu'il n'est aucun sujet humain qui n'ait à se poser comme un objet et un objet fini, auquel sont appendus des désirs finis, lesquels ne prennent l'apparence de s'infinitiser que pour autant qu'à s'évader les uns des autres toujours plus loin de leur centre, ils portent le sujet toujours plus loin de toute réalisation authentique. Or, ce rapport, cette méconnaissance du petit a, est quelque chose qui laisse une porte ouverte. Nous le savons depuis toujours, il n'y a même pas eu besoin de l'analyse pour nous le montrer, puisque j'ai cru pouvoir vous le montrer dans un dialogue de Platon, Le Banquet. L'objet petit a, en tant qu'au terme, terme sans doute jamais achevé, il est notre existence la plus radicale. Qu'il est la seule voie dans laquelle le désir puisse nous livrer ce en quoi nous aurons nous-mêmes à nous reconnaître. Cet objet petit a est assitué comme tel dans le champ de l'autre, et non seulement il est à y être situé, mais il y est situé par chacun et par tous, et c'est cela qu'on appelle la possibilité de transfert. L'interprétation que nous donnons porte toujours sur le plus ou moins de dépendance des désirs les uns par rapport aux autres. Mais ce n'est pas l'affrontement à l'angoisse. Il n'y a de surmontement de l'angoisse que quand l'autre s'est nommé. Il n'y a